La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, merci de nous retrouver au premier jour d'une compagnie des auteurs consacrée à Umberto Eco, un homme qui n'a eu de cesse, encore et toujours, que de creuser une seule et même idée.
Je voulais une fois, mon prof avec lequel je faisais la thèse m'a dit « Mais tiens, tu sais, pendant notre vie, nous poursuivons seulement une seule idée et c'est toujours la même. » Je m'étais fâché, je croyais que c'était très actionnaire. Mais comment, il n'y a pas de développement? Et comme je suis vieilli, je me suis aperçu que pendant ma vie entière, j'ai poursuivi toujours la même idée. Le seul problème, c'est que je ne sais pas laquelle.
Toujours ce sourire en coin chez Umberto Eco dont nous allons parler jusqu'à mercredi, une petite semaine plus courte que d'habitude afin d'accueillir jeudi Éric Marty qui va lire et commenter un choix qu'il a fait pour nous d'extraits de romans sur le thème de la nudité. Mercredi donc, nous parlerons des langues d'Umberto Eco, ce sera avec sa traductrice pour tout ce qui concerne les essais, Myriam Bouzaer. Et puis en seconde partie, Laurent Binet sera dans ce studio, il parlera de son roman en particulier, La 7e fonction du langage dans lequel apparaît Umberto Eco. Demain, c'est Eco, le professeur et le sémioticien qui retiendra notre attention grâce au témoignage de son collègue, ancien élève et ami, Paolo Fabri. Enfin, aujourd'hui, pour notre traditionnelle émission introductive, je suis en compagnie de Jean-Noël Schifano, son traducteur, mais cette fois pour toute la partie roman. Mais avant cela, mettons-nous un peu dans l'ambiance.
Ora riprincipio la cronica di quella sera con quel signore alemano che voleva sapere come mai parlavo la sua lingua. Io gli ho contato che c'ho il dono delle lingue come gli apostoli e che c'ho il dono della visione come le maddalene, perché vado per la Silva e vedo il santo Baudolino cavallo di un lioncorno colon del latte con il suo corno tortiglione proprio là dove i cavalli hanno quello che per noi è il naso. Basta che lui non vede, ma lui non so come ha fatto perché leggeva, ma mi ha brancato per il collo e gli ho detto di viser un vestito a me e lui si è messo a ridere e diceva ma sai che sei un puerulo intelligente, vieni qui che ogni giorno che ti insegno a leggere. Così mi ha insegnato le lettere scritte a suon di mespule sulla testa, solo che dopo che eravamo in confidenza si è messo a dire che Beliovin è robusto, che sai che bella testa da leone, ma fai vedere se le braccia sono forti come...
Bonjour Jean-Noël Schifano.
Bonjour.
Vous reconnaissez évidemment Umberto Eco lisant Bandolino. Un extrait voilà, de Bandolino. J'aurais pu vous demander de le traduire en simultané, après tout vous l'avez déjà traduit
oui,
une fois.
Oui, en simultané, je préfère pas. J'aime bien l'écriture comme Eco quand il écrit ses romans.
Est-ce que c'est une lecture qui ressemble à l'homme ?
Oui, c'est-à-dire dans le... Vous savez, la première question que vous lui avez posée, c'est-à-dire qui se posait à lui-même et qui il a été un peu humilié par son professeur en disant « on n'a qu'une idée dans sa vie ». Eh bien, j'y pensais quand il y en est, et son idée à lui, c'est sortir du brouillard. Le brouillard est un thème perpétuel dans l'œuvre de Eco, et non seulement parce que le nord de l'Italie et surtout le Piémont et les collines du Piémont ont un brouillard épais comme il n'est pas possible, on pourrait pas se voir tous les deux de l'autre côté de la table. Hein. Mais c'est le brouillard des civilisations, c'est-à-dire tout ce qui fait que la raison n'arrive pas à percer le brouillard, et tout ce qui fait que les complots du monde entier ajoute au brouillard. Et le brouillard est vraiment le thème qui parcourt toute son œuvre.
Mais alors voilà. Pourquoi est-ce qu'il ne le dit pas, finalement ?
Il ne le dit pas parce que ça ne lui vient pas à l'esprit. Vous savez, on écrit, j'écris moi-même, je publie des romans, etc. On ne sait pas toujours tout ce qu'on écrit. Et ça lui correspond beaucoup. Parce que vous avez ces personnages qui font des enquêtes sur le brouillard et il y en a qui et tout la métaphore du brouillard court tout le long de ses romans.
Il a disparu il y a quelques mois seulement en février de
il est mort de exactement cette année. Oui, le 19 février 2016 à 22h30 et c'est son pancréas qui l'a lâché. Il y avait une tumeur au pancréas et avant de mourir, il est mort donc à 84 ans. Ses derniers mots ont été « je me ferme comme un hérisson. Mi chiudo come un riccio. Avec cette image de la campagne qu'il adorait, ces personnages souvent sont sur les collines et attendent, par exemple, comme dans le Pendule de Foucault, d'être oxy par les obscurs, par ceux qui mènent des complots. Et donc, c'est un animal de la campagne, c'est un animal qui était très mignon, hein, hérisson, c'est un animal maintenant protégé, avec son petit museau, ses petites pattes, il court, et puis il s'enroule sur lui-même avec simplement son museau qui sort de ses quatre pattes. Et il reste comme une boule qu'on ne peut pas agresser, parce qu'il se défend avec ses aiguilles. Voilà, je pense que c'est une métaphore. Après avoir tout donné, il se referme sur son corps et son esprit dans ses livres. Et son vrai corps, c'est le corps de ses livres, quoi.
Et son intériorité et finalement son savoir immense qui était peut-être là où résidait le cœur de la vie d'Umberto Eco.
Oui, quand on se rencontrait, on ne se disait pas bonjour, on ne se disait pas, etc. Il me disait toujours, tu sais, la dernière. Et il me racontait une blague. Alors, dans les blagues, il pouvait y avoir celle-ci qui s'énumérait en comment tu vas. Comment tu vas? Alors, différents personnages de l'histoire répondent. Ou romanesque, etc. Cyrano, à vue de nez, bien. Bellini, selon la norme. Agatha Christie, deviné. Freud, à vous de me le dire. Curie, je suis rayonnant. Dracula, je suis en veine. Honnant, je me satisfais. Priap, ne me le cassez pas. Robespierre, il y a de quoi perdre la tête. Nobel, l'inventeur de la dynamite, en plein boom. Einstein, par rapport à qui? Oedipe, maman est contente. Hippocrate, tant qu'on a la santé. Damoclès, ça pourrait aller pire que ça. Voilà, c'est l'esprit de Eco, comme ça, en deux. Et c'était des. Il arrivait à faire avec des rabbins, avec ses amis, des concours de blagues, et celui qui s'arrêtait le premier avait perdu.
Eco, ça veut dire tomber du ciel, et ce serait effectivement le nom de votre grand-père, qui était un bâtard, un enfant abandonné, et qu'on a appelé tombé du ciel. Est-ce que c'est vrai?
Donné par le ciel.
Donné par le ciel.
Ex caelis oblatus. Donné par le ciel, oui. Ce qui n'est pas normal, parce que d'habitude, nos enfants trouvés ont des noms très mauvais, etc. Et je n'avais jamais su pourquoi on avait inventé ce nom-là. Après, un ami a trouvé une liste d'acronymes du XVIIe siècle pour les enfants trouvés, parmi lesquels celui-là. Alors on a compris pourquoi ce Eco avait paru.
Est-ce qu'un patronyme a une influence sur le destin de celui qui le porte?
Bon, non. Et évidemment, si quelqu'un s'appelle Capette ou Hohenzollern, peut-être qu'il va subir une influence négative. Si on a la chance de s'appeler comme moi, on est libre en face de l'absolu.
Umberto Eco, l'homme donné par le ciel, Jean-Noël Schifano.
Ex caelis oblatus.
Il est né le 5 janvier 1932 à Alessandria,
dans le
Piémont. Il est piémontais comme le narrateur de son roman, roman que vous avez traduit comme les autres, Le cimetière de Prague.
Oui, il est piémontais comme le héros du cimetière de Prague. Un héros cynique, un héros qu'on peut dire négatif, un héros raciste, un héros antisémite, un héros qui haïssait. Odi ergo sum, dit-il, je hais donc je suis. Mais Eco répondait à qui? Alors il a eu des discussions autour du cimetière de Prague, naturellement, on dit il frôle l'antisémitisme, etc. Et c'est tellement agréable à lire que on risque de susciter des vocations racistes.
Parce que le personnage, il est antisémite, mais enfin il est contre tout le monde, il est contre la franc-maçonnerie, contre les femmes.
Les Allemands, les Français, il a pris la nationalité française parce qu'il ne supportait plus les Italiens, etc., etc. C'est un faussaire, c'est un espion. et c'est quelqu'un qui agit entre 1860 et la commune, si vous voulez. Alors Eco répondait à qui il disait, mais attention, un SS voit le tableau de Picasso, Guernica. Et il dit à Picasso, après avoir contemplé l'œuvre, c'est vous qui avez fait ça. Et Picasso lui répond, non, c'est vous qui avez fait ça.
Donc il est piémonté, comme le narrateur de ce livre, et il dit pourtant des piémontés que toute nouveauté les raidit, que l'inattendu les terrorise, ce qui est au fond tout le contraire d'Umberto Eco.
Oui, mais dans le Pendule de Foucault, il dit le piémontais, on le reconnaît tout de suite à son scepticisme. Donc, ces romans...
Il était sceptique aussi, Umberto Eco.
Oui, bien sûr. Il marchait sur le scepticisme. Il ne croyait pas ce qu'on lui racontait. Et puis, étant donné son esprit, et vous savez bien que le Pendule de Foucault, tout est déclenché par une liste. Et cette liste mystérieuse qui fait qu'il y a à la fin des morts, c'est une liste des commissions, mais interprétée. C'est-à-dire surinterprétation, etc., des signes. Hein, lui, c'est quand même un sémioticien, les signes sont là. Et on ne sait pas où les signes vous mènent. Donc, il faut les draguer et avoir la conscience de toutes les époques. Par exemple, Aboulafia, c'est le nom de l'ordinateur dans le Pendule de Foucault. Mais Abraham Aboulafia, de Saragosse, c'est un des plus grands kabbalistes juif qui ait jamais existé. Donc on a cette communication. Et quand il essaye d'ouvrir Aboulafia, parce que son ami a disparu, etc., il a été enlevé probablement, peut-être mort, et il fait tout, il voit la photo de ses enfants, il voit la photo de ses familles, de sa famille, etc., il fait tout ce qu'il peut, et puis quand Aboulafia lui demande « c'est-tu le mot de passe ?», alors il répond, et à la fin, il répond « non, et c'est le mot de passe ».
C'est alors que je vis le pendule. La sphère, mobile à l'extrémité d'un long fil fixé à la voûte du cœur, décrivait ses amples oscillations avec une isochrone majesté. Je savais, mais quiconque aurait dû s'en rendre compte sous le charme de cette paisible respiration, que la période était réglée par la relation entre la racine carrée de la longueur du fil et ce nombre pi qui, irrationnel aux esprits sublunaires, par divine raison, lie nécessairement la circonférence au diamètre de tous les cercles possibles. Si bien que le temps de l'errance de cette sphère d'un pôle à l'autre était l'effet d'une mystérieuse conspiration entre les plus intemporelles des mesures. L'unité du point de suspension, la dualité d'une dimension abstraite, la nature ternaire de pi, le tétragone secret de la racine, la perfection du cercle.
On va parler un peu plus tard dans cette émission, en particulier du Pendule de Foucault, mais pour reprendre la trajectoire de Umberto Eco, on dit qu'il est piémonté, mais il est peut-être aussi un petit peu français. Et d'ailleurs, on le sent dans le Pendule de Foucault.
Absolument, c'est-à-dire les piémontais, vous savez que Cavour, qui a procédé à la colonisation du sud de l'Italie qu'on a appelée Unité, Cavour ne parlait et n'écrivait que le français. Et tout le Piémont était, Piémont-Sardaigne, etc., mais le Piémont était à cheval sur la Savoie aussi, et il parlait, tous les gens cultivés parlaient français.
Mais lui, il avait un rapport particulier quand même à ce pays, à la France.
À la France, il a eu le rapport particulier que d'abord tout piémontais peut avoir, et puis ensuite lui, bien sûr, parce que ses premiers livres, il admirait beaucoup Roland Barthes. L'œuvre ouverte est suffisamment proche de Roland Barthes, et puis tout le reste. Je veux dire, il y a toute la culture française qui imprègne Umberto Eco, et le roman aussi, hein, de Rabelais jusqu'à, on pourrait dire Céline si on veut, mais Rabelais en tout cas, oui bien sûr.
Ses origines, sa famille, son père était quincaillier, c'était une famille de la petite bourgeoisie, est-ce qu'il vous en parlait parfois ?
Non, mais il en parlait dans ses romans. Hein. Je veux dire, on voit très bien les origines des... Si vous prenez La mystérieuse flamme de la reine Loana, Et puis, il y a aussi un thème, l'autre thème, c'est la perte, c'était une crainte, la perte de mémoire. C'est-à-dire ne plus se souvenir.
Et pourtant, lui qui avait une mémoire tellement extraordinaire.
Ah ouais, de même d'un troupeau d'éléphants. L'avant-dernier roman, c'est « Qui suis-je ?» et « La reine Loana », « La mystérieuse flamme de la reine Loana ». La première phrase, c'est « Comment vous appelez-vous »« Quel est votre nom ?» Et il répond, le héros répond « Je l'ai sur le bout de la langue ». Donc, il a eu un accident cérébral, naturellement, et c'est la conquête de la mémoire à travers les citations dans la première partie. Et après, il retombe dans un accident aussi vasculaire, et jusqu'à ne plus se réveiller jusqu'à la fin. Mais là, il a une mémoire affective. Donc, les deux sont balance.
Donc, Umberto Eco va passer son bac dans sa ville natale. À cette époque-là, il appartient aux jeunesses catholiques. Alors qu'on sait que quelques années plus tard, en 54, il va dire être guéri de la foi. Quel rapport
avait-il à la religion ? Oui, c'est Thomas d'Aquin qui l'a guéri de la foi. Il le dit.
Il fait sa thèse sur Thomas d'Aquin.
Oui, il fait une thèse sur saint Thomas d'Aquin et il l'a fait à 22 ans. Sa thèse universitaire à 22 ans sur l'esthétique chez saint Thomas d'Aquin. Et il ne quittera jamais saint Thomas d'Aquin. Même dans les romans, Thomas d'Aquin m'a miraculeusement guéri de la foi, dit-il. Et dans ses romans, dans la mystérieuse flamme de la reine Loana, tu aimais beaucoup les pages de Saint. Alors ça, c'est Saint Augustin, mais peu importe, c'est toujours du côté des pères de l'Église aussi. L'homme le plus intelligent, etc., c'est Saint Augustin. Mais Saint Thomas d'Aquin, qui disait « Nil est in intellectu quod non sit prius in sensu », c'est-à-dire « Rien n'est dans l'intellect si ça n'a pas d'abord été dans les sens », eh bien c'était ça, c'est-à-dire que la sensualité d'Umberto Eco, même débridée, alors que quand on a l'histoire de Baudolino qui va connaître au moment des croisades sur Constantinople, qui va connaître une histoire d'amour fabuleuse avec une femme, qui s'appelle Hypatie. Hypatie, qui est femme comme les autres femmes jusqu'au nombril, et après, qui a des sabots et des poils de chèvre. Mais là, c'est très intéressant, parce que, après avoir fait l'amour, d'un amour unique, qui lui baise les sabots. Et quand Umberto Eco est passé à une émission de télévision et que deux jeunes filles, très belles, l'interrogeaient, et il y en a une des deux qui dit « Ouais, mais elle est pas si belle que ça, votre Hypatie. » Eh bien, Umberto Eco a perdu un peu les uns et il a répondu « Elle est plus belle que vous. »
On n'était pas des bohémiens, comme les gens de la première avant-garde. Au contraire, on était déjà plus ou moins tous enserrés dans le système officiel de la culture, qui travaillait dans une maison d'édition, qui dans un journal, qui à la radio, à la télévision, et déjà, ceux qui, entre nous, étaient sur les 30 ans, déjà dans des positions, disons, de pouvoir, c'est-à-dire on était les directeurs d'une maison d'édition, on écrivait sur la première page d'un journal. Donc la caractéristique du groupe, c'était des gens qui mettaient en question de façon polémique un pouvoir culturel dans lequel ils étaient déjà insérés. Ce qui est exactement le contraire de l'avant-garde bohémienne qui attaque un pouvoir extérieur qui se défend et qui les repousse. Ça a été la caractéristique du groupe qui n'a pas été perçu immédiatement parce que c'était probablement difficile de la percevoir. Et c'est pour ça que entre les productions du groupe, au-delà des productions poétiques et romanesques, il y a eu une production critique de la culture et de la structure du pouvoir culturel.
Le groupe 63, Jean-Noël Schifano, 63 du nom de l'année finalement où il a été créé, c'est-à-dire 9 ans après 54, le moment où il est guéri de la foi par saint Thomas d'Aquin. Qu'est-ce que c'est que ce groupe et qu'est-ce que ça signifie finalement de l'entrée d'Umberto Eco dans une certaine avant-garde italienne, même peut-être dans le cœur de l'avant-garde italienne de l'époque?
J'ai participé à une réunion du groupe 63 et il y avait Umberto Eco n'était pas là, mais il avait déjà abandonné. C'était au début des années 70. Mais il y avait des écrivains engagés, c'est-à-dire engagés auprès des ouvriers. C'était en Italie l'époque où il y allait avoir Negri et les autres, enfin la lutte armée des étudiants, etc.
Comment se positionnait-il alors justement? Ouais.
Eh bien, il se positionnait toujours avec une certaine distance par rapport à toutes les violences. Et ensuite, il n'est jamais entré dans ces choses. Le groupe 63 était un groupe de recherche, intellectuel où se réunissaient les critiques de Rome, de Milan, etc. Moi, j'ai rencontré Inge Feltrinelli lors d'une des réunions avec son fils qui faisait du vélo, qui est tout petit et qui maintenant dirige la maison. Et c'était une façon de raconter l'Italie. L'Italie, car Umberto Eco raconte jusqu'à la fin, jusqu'à numéro zéro, hein, son dernier roman, c'est-à-dire une Italie qui n'est pas faite, une Italie du mensonge, une Italie des prêtres, une Italie où le Vatican domine tout, une Italie liquide, qui disait que c'était les rapports était liquide, c'est-à-dire que il vous passait entre les doigts, il vous passait par-dessus la tête.
Il était déçu par son pays.
Oui, complètement. Il suffit de lire le dernier roman et même l'avant-dernier pour voir que il y avait le cynisme de l'avant-dernier roman, c'est-à-dire du cimetière de Prague, n'est pas le cynisme du dernier numéro zéro. Dans le numéro zéro, vous avez la création d'un journal qui est là pour mentir, c'est-à-dire pas pour donner l'information. Et en français, on a bien le mot qu'il faut, mais pour couvrir l'information. Quand on couvre l'information, eh bien, on la truque et on fait en sorte que les journaux et l'information deviennent un instrument du pouvoir.
Parce que numéro zéro raconte comment Mussolini n'aurait pas été fusillé en 45, ça aurait été son sosie, et donc c'est un livre sur la théorie du complot.
Oui, bien sûr, mais non seulement ça, mais sur le fait que l'Italie ne s'est pas faite. Et Eugenio Scalfari, le fondateur de la Repubblica, journal correspond au Monde ici, dans une émission avec Umberto Eco, a regretté que l'Italie ait été faite par un petit, alors Umberto Eco le regardait avec des yeux tout ronds, un petit État, c'est-à-dire bon le Piémont-Sardaigne, au lieu d'être fait par un État très puissant qui était l'État des deux Siciles.
Toujours est-il qu'il fait partie en 63 de cette avant-garde, même si, on l'a entendu dans l'archive, il voit bien les limites au fond de ce côté anti-establishment, alors que soi-même on fait partie de l'establishment. En effet, il participe à des revues, alors à telles quelles en France, Quindici, Mercatré, Versus. Donc on le voit dans ces années-là prendre une stature qui est une stature d'intellectuel.
Oui, mais bon, il l'avait dès le début, hein, cette stature. Il a travaillé en plus dans les maisons d'édition, il a travaillé dans les journaux.
Il a travaillé à la télévision également.
À la télévision,
il a gagné un concours pour travailler à la RAI.
Oui, oui. Et donc, il était dans le bain, mais il avait une personnalité tellement forte et une puissance créatrice et d'analyste de la réalité tellement forte que il pouvait avoir des amis, il avait des amis, mais il ne pouvait pas s'embringuer dans un mouvement et être complètement il dominait. Eco dominait. Il était très ami de Moravia. Il admirait beaucoup Moravia, qui avait un esprit aussi, lui, mais à sa façon très très clair.
Il était professeur à l'université de Bologne, enseignant de cette science, la sémiotique, science expérimentale. Oui. Vous citiez Roland Barthes à l'instant. Qu'est-ce que ça représentait pour lui, la sémiotique?
C'est le sens des signes, c'est-à-dire tous les signes qui sont là, depuis les plus petits, depuis ceux de tous les jours, jusqu'aux signes que nous envoient les grands mouvements littéraires, la littérature depuis toujours. Et les images, le cinéma, il a été furieux quand Jean-Jacques Hano a choisi Sean Connery pour interpréter le moine enquêteur du nom de la rose.
Pourquoi ?
Parce que il voyait, il dit comment Sean Connery, mais c'est je sais pas un James Bond dans un roman, une histoire qui se situe au Moyen Âge. Et puis ensuite, après, il a vu que ça marchait bien. Mais sur le moment, donc tout ça était signe aussi, mais un signe comme un James Bond dans son monastère, ça lui allait pas. Il a eu une réaction furieuse.
Mais justement, cette étude des signes, est-ce que ce n'était pas pour lui une façon de relier la culture savante avec la culture populaire?
Oui.
Parce que précisément, le signe, c'est ce qui fait le lien entre les deux.
Oui, absolument. Oui, sans aucun doute. Ouais.
Donc c'est quelqu'un qui a réussi cet exploit d'être à la fois un auteur célèbre et en même temps un professeur éminemment respecté.
Il tenait beaucoup à son rôle de professeur. C'était un enseignant exceptionnel et il a toujours enseigné. Quand j'étais à l'Institut français, je l'ai invité deux fois à venir. Et il avait un monde fou autour de lui. Il était heureux d'être au milieu des étudiants et de tout le monde, quoi.
Alors écoutons Eco raconter comment finalement sa vie va basculer avec l'écriture du Nom de la Rose et comment il en est venu justement à écrire ce roman.
Je faisais dans une certaine façon des exercices de littérature, mais je ne considérais pas mon véritable travail, jusqu'au moment qu'une amie à moi est venue me visiter, j'avais 48 ans, et elle m'a dit, pour un petit éditeur, je vais créer une série de romans, de polars, écrits par des non-romanciers. Et je lui dis non, je crois que je ne suis pas capable d'écrire les dialogues. Il paraît que les dialogues sont la chose la meilleure de mes romans, mais ça c'est un autre problème. Pas capable d'écrire les dialogues, et après, pour faire une boutade, si je devrais écrire un polar, ce serait 500 pages, il se passerait dans un monastère médiéval. Alors elle a dit, bon, c'est pas mon problème, ciao, ciao. Et je suis rentré chez moi, et j'ai commencé à écrire le Nom de la Rose.
Un entretien avec Paula Jacques en 2008 dans lequel Umberto Eco raconte justement comment il a commencé à écrire ce roman sans savoir qu'il allait à ce moment-là ouvrir finalement une seconde partie de sa vie. On peut parler, Jean-Noël Schifano, d'un second Eco à partir de 50 ans.
Oui, et pour moi c'est le plus bel Eco.
C'est celui que vous avez traduit. Donc
oui,
c'est
non, mais
que
c'est
préférez.
Le plus bel Eco, c'est-à-dire que tout ce qu'on ne peut pas dire par le raisonnement, on le dit par la fiction. La fiction révèle beaucoup plus la réalité que l'essai.
Vous pensez qu'il disait plus de choses dans ses romans que dans ses essais?
Il a dit mille fois plus de choses, et puis en plus, il a parlé de lui. Il a parlé de lui, et on entre beaucoup plus dans son raisonnement, si vous voulez, raisonnement sec, quand on lit et quand on a la chair qui vous porte, et quand on a les personnages, quand on suit les personnages, qui sont porteurs d'idées aussi, et dans les dialogues, etc., que dans un essai. On a besoin de passer par la fiction pour retrouver la réalité.
Est-ce que c'est un cas assez rare d'hommes qui arrivent justement à être tout à fait un intellectuel et en même temps tout à fait dans le sensible?
Oui, les bons intellectuels sont aussi dans le sensible. C'est-à-dire, les intellectuels secs, froids, etc., l'intellectuel souligné est pas très très intéressant. Ce qui était, c'est un reflet d'une réalité impuissante quasiment. Tandis que là, il a fait voir que ce qu'il ne pouvait pas dire autrement, il l'a dit dans le roman. Et le grand étonnement, c'est que ce roman a été refusé partout. Il a été refusé partout. D'ailleurs, en Italie, même son éditeur, quand ils ont eu le manuscrit, ils ont dit entre eux, chez Bompiane, ils ont dit, mais c'est il nome della resa, c'est-à-dire le nom de la défaite quasiment. C'est-à-dire, ça allait être quelque chose qui est... Et en France, ça a été un refus partout. Il était édité, l'œuvre ouverte était éditée au Seuil. Le Seuil l'a refusé. Et les raisons étaient toujours les mêmes. Le Seuil, Grasset l'a refusé.
Qui l'éditera justement plus tard.
Gallimard, oui, mais je dirais comment? Gallimard l'a refusé. Et la raison était toujours la même. Ce n'est ni un essai, ni un roman. C'est situé à une époque... Et le tout est intraduisible. Voilà, c'est la raison. Et un jour, un soir, Jean-Claude Fasquelle rentre avec Niki, son épouse, après avoir bien mangé, etc. Et puis, Jean-Claude s'endort tout de suite. C'est un homme immense. Nikki ne dort pas. Et elle prend un livre, comme elle est triestine, donc italienne, elle prend un livre qui est ce livre qui traînait.
Le manuscrit.
Le livre édité en italien. Et à un moment donné, Jean-Claude Fasquel est réveillé en sursaut. Et il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et le rire de Nikki Fasquel, c'est un rire qui fait trembler les murs. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu devrais mieux dormir, etc. Et en fin de compte, il dit, mais je suis en train de lire le roman que vous avez refusé. Il y a un moine qui flotte dans un abreuvoir, on l'a assassiné, c'est très marrant. Alors c'est pas très marrant, mais bon, comme le repas, etc. Et le lendemain, Jean-Claude Fasquel achète les droits.
Alors, on peut rappeler un petit peu l'histoire, Jean-Noël Schifano. Vous avez passé des mois, j'imagine, dans cette histoire-là.
Ça a été la première traduction qui soit sortie au monde en 82, au printemps, et elle a fait foi pour les 40 autres traductions.
Donc, le succès en France a encouragé les autres pays à traduire.
D'abord, oui, le fait qu'on l'ait pris, finalement, c'était un bon signe, et aussi que les difficultés, parce qu'il y en avait, ait été aplani par la première traduction.
Donc ça se passe au 14e, dans une abbaye d'Italie
début
du Nord,
du 14e,
isolée sur les contreforts d'une montagne.
Oui.
Bon, la trame historique, c'est celle des luttes entre l'empereur et le pape, entre l'église et les hérétiques.
Les guelfes et les gibelins. Oui, oui.
Mais finalement, c'est pas ça tellement qui compte. Ce qui compte, c'est que les deux personnages principaux, Guillaume de Baskerville, qui est lui un ancien inquisiteur, ce qui n'est pas sans importance, et son secrétaire Azzo, qui est le narrateur du roman, sont chargés d'une mission de diplomatie, qui est d'assister à la rencontre des théologiens du parti de l'empereur et de ceux du pape. Ils arrivent donc dans cette abbaye. Et là, ils sont confrontés à une série de meurtres.
Une succession de meurtres. Et ces meurtres tournent. Alors, ce que je vais vous dire aussi, c'est très important, c'est que le rire a déclenché la traduction de ce roman en France. Le rire de Nikki Fasquel. Et ce roman est fondé sur la chasse au rire, puisque le bibliothécaire qui est le personnage diabolique de cette du nom de la rose fait en sorte que le livre sur le rire d'Aristote soit brûlé, et donc le rire qui est le moteur du nom de la rose, puisque c'est le rire interdit, donc le rire qu'on veut rire mais il est interdit, la traduction commence par le rire de Nikki Fasquel. Vous voyez que ce qui a fait que le livre a été traduit en France, c'est un rire. Et le livre, Le nom de la rose, tourne autour du rire.
Et on va continuer d'analyser justement en quoi cette question du rire évoque l'aujourd'hui. Jean-Noël Schifano, mais tout de suite, c'est En compagnie des revues.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et pour En compagnie des revues, aujourd'hui je reçois Pierre Cros du réseau social littéraire Babelio. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu, bonjour Jean-Noël.
Bonjour.
Alors aujourd'hui vous allez nous parler, on est un peu dans le sujet, de littérature de genre.
Je vais vous parler de fin du monde, de survie éventuelle, de monstres, d'enfants au pouvoir mystérieux. Bref, je vais parler, vous l'aurez compris, de science-fiction et de fantastique. C'est un peu malheureux, mais pendant la rentrée littéraire, les littératures de genre sont souvent les grandes absentes, notamment dans les médias, alors que de nombreux romans de science-fiction, de fantastique sortent en librairie.
Et justement, Pierre, est-ce que les littératures de genre, elles sont appréciées par vos lecteurs sur Babelio?
Alors écoutez, dans les livres les plus populaires de tous les temps sur le site, on retrouve 1984, le classique terrifiant de George Orwell, Hunger Games, la fameuse dystopie de Suzanne Collins, ou encore Divergente de Véronique Roth. Et côté fantastique, on retrouve naturellement les différents tomes d'Harry Potter. Et d'ailleurs, le sorcier revient en force dans l'actualité. Vous n'y échapperez pas, Jean-Noël et Mathieu, avec la traduction en français de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit, mais également à travers plusieurs guides édités en version numérique par Pottermore, c'est le site de J.K. Rowling. Et voilà, donc ces guides explorent un peu l'univers du décor avec différentes nouvelles. Et la magie marche encore, les lecteurs sont très nombreux à se procurer tous ces ouvrages. Et les critiques sont sur Babelio plutôt positives. J'imagine que les lecteurs seront d'autant plus nombreux lorsque sortira le film Les Animaux Fantastiques et Où les Trouver. C'est l'adaptation très attendue d'un livre de J.K. Rowling qui sort ce Noël.
Alors, il y a une autre adaptation d'un livre fantastique qui sort justement au cinéma cette semaine.
En effet, si les films Harry Potter ont récemment été élus dans un sondage anglais les meilleures adaptations cinématographiques d'une œuvre littéraire, peut-être seront-ils détrônés cet hiver par une autre adaptation, celle très attendue également du livre Miss Peregrine et les enfants particuliers. C'est une adaptation attendue parce qu'il s'agit au départ d'un livre culte de Ransom Riggs, publié en France chez Bayard en 2012. Alors, pour faire bref, c'est l'histoire de jeunes enfants pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont d'étranges pouvoirs et qui se cachent dans un orphelinat parce qu'ils sont pourchassés par des monstres. On peut y voir bien sûr un parallèle avec la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors sur Babelio, c'est à peu près 2000 lecteurs, une note moyenne de 4 sur 5. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est estampillé littérature jeunesse, alors qu'en fait, il est très apprécié par les lecteurs âgés de 25-30 ans. Et alors, autre fait intéressant, j'ai vu beaucoup de critiques qui ont commencé le livre après avoir vu la bande-annonce. Le film sort le 5 octobre, il est réalisé par Tim Burton. J'espère que les lecteurs ne seront pas déçus.
Donc là, il s'agit de romans fantastiques. Est-ce qu'il y a des choses également intéressantes, Pierre, dans le domaine de la science-fiction ?
Oui, alors je ne sais pas si vous avez remarqué, le thème de l'apocalypse est très présent en ce moment dans la science-fiction. Alors on a quelques ouvrages, je vais en citer deux, qui partent de ce thème, mais pour le traiter sous un angle un peu différent. Alors je pense à De Profundis d'Emmanuel Pirot, au Cherche Midi. Alors là, c'est le virus Ebola qui décime le monde et l'Europe notamment. Et on suit les aventures d'une dealeuse de médicaments dans une Bruxelles dévastée qui tente de survivre aux côtés de sa fille. Alors je vous lis l'extrait d'une critique d'une lectrice. L'auteur va nous emmener dans des chemins de travers, du fantastique à l'horreur, de l'espoir au drame. On se plaît dans un voyage des genres, un voyage des sens. Un autre roman, étranger cette fois-ci, qui explore cette thématique, c'est Station Eleven de l'auteur canadien Emily St. John Mandel, qui est publié chez Rivage. Alors là, dans ce roman, c'est une grippe aviaire qui décime 99% de la population. Et à travers les décombres, près de 20 ans après cette tragédie, on suit une troupe de musiciens et d'acteurs qui jouent des pièces de Shakespeare et des pièces de musique un peu partout. À travers ce monde dévasté, c'est la beauté qui sauvera le monde, disait Dostoïevski. C'est un peu ce qu'essaie de démontrer l'auteur à travers ce roman de science-fiction. Alors nous, on a eu la chance de nous entretenir récemment avec l'auteur et elle nous a dit ceci. Je me suis demandé à quoi ressemblerait un monde en reconstruction, quelle culture choisirait-il de célébrer ? L'auteur a pensé à Shakespeare. Dommage, elle n'a pas pensé à Umberto Eco.
Merci beaucoup Pierre, puis je renvoie donc les auditeurs à votre réseau social littéraire babelio.com. La compagnie des auteurs est consacrée jusqu'à mercredi au sémioticien et écrivain italien Umberto Eco. Jean-Noël Schifano, son traducteur, est là pour nous parler d'un homme qui aimait raconter des histoires, ici des histoires de feu.
Il y a là une histoire de l'âge de 3 ans jusqu'à peut-être l'âge de 12 ans. J'habitais dans une maison où, à l'étage supérieur, habitait le capitaine commandant des pompiers de ma ville. Et j'ai eu une enfance où, pendant la nuit, parfois j'étais réveillé par du bruit sur l'escalier, le bruit de voiture qui arrivait, parce qu'il y avait un grand incendie quelque part, et les pompiers venaient prendre le chef pour aller. Et le jour après, la femme du capitaine parlait avec ma mère, « Ah oui, hier soir, il y a eu un feu extraordinaire dans l'endroit tel ou tel, ça a été terrible. » Donc, j'ai eu une enfance où le problème du feu avait une position très importante, presque centrale. Et de façon telle que je me suis aperçu pendant ma vie, spécialement lorsque j'avais les enfants qui étaient petits, que la seule peur que j'avais lorsque j'étais ailleurs, c'était le feu. Et alors, peut-être ça provoqué mon choix du feu final du nom de la rose. Et ça, c'est intéressant parce que les lecteurs vont chercher partout des éléments autobiographiques dans une histoire. Ah, vous êtes le personnage tel ou tel. Et ils ne se rendent pas compte que la véritable autobiographie va se cacher dans un coin insoupçonnable.
c'est intéressant, Jean-Noël Schifano de Umberto Eco.
Oui, très.
De là où il se trouve finalement très. Dans ses romans, là où on ne l'attend pas.
C'est très intéressant, d'autant qu'il y a un autre roman qui a flamme dans le titre, hein, La mystérieuse flamme de la reine Loana. C'est une bande dessinée de son enfance où cette fameuse flamme fait que la reine Loana ressuscite pratiquement ses amants morts. C'est une flamme comme ça de vie. Là, c'est une flamme dangereuse et qui peut brûler. C'est un épisode de sa vie. Enfin, c'est habiter au-dessus des pompiers, c'est oui.
Et le feu, c'est évidemment cette scène que vous avez traduite à la fin du Nom de la Rose, puisque oui. La bibliothèque part en fumée. Et si elle part en fumée, c'est parce que le doyen de l'abbaye, qui est
Jorge.
Puritain, oui. Terrible, justement, a décidé de quoi nettoyer par le feu pour éviter qu'on ne rit trop.
C'est ce que vous deuxième disiez. Livre d'Aristote qui concerne le rire que Guillaume de Baskerville et Atzo de Melk, son aide, hein, le petit moine, cherche à récupérer. C'est un livre très rare et ce livre est empoisonné. Si on tourne ces pages, elles sont collées, on tourne ces pages en mettant son doigt à la bouche et on s'empoisonne. Donc le rire poison pour les puritains, comme vous dites, ou pour ce moine, Jorge, aveugle, hein, qui est Borges un peu, hein, mais Borges aimait les livres, il les brûlait pas. Et on a cette poursuite de l'assassin qui tue les moines, qui fait en sorte qu'ils meurent, et en fin de compte, le livre empoisonné, le livre du rire, et on a, disons, toute l'œuvre romanesque de Eco, sinon l'œuvre totale, dans ce balancement de la bibliothèque à sauver, absolument. D'ailleurs, Guillaume de Baskerville sauve quelques livres avant de sortir de l'abbaye qui brûle.
Est-ce qu'il peut y avoir ici un parallèle entre donc ces puritains, hein, continuons de les appeler comme ça, ces intolérants, et les terroristes, alors qui seraient aujourd'hui ceux d'Al-Qaïda, mais qui étaient oui. peut-être en Italie.
Les brigades rouges.
Les brigades rouges.
Oui, non, les brigades rouges, ça serait, alors c'est des analogies, ça serait les Fra Dolcino et les Dolciniens, c'est-à-dire une secte religieuse qui partait des franciscains. C'est-à-dire, bon, vous partez du Parti communiste, et puis, qui pour les pauvres, comme les franciscains, etc., et qui font vœu de pauvreté. Et puis, vous avez les brigades rouges extrémistes qui mettent à feu et à sang. Alors, mais les brigades rouges étaient manœuvrées par la CIA, et l'assassinat d'Aldo Moro le montre. Mais dans son dernier numéro zéro, dans son dernier roman, on a toute cette époque, et tout se rejoint, c'est-à-dire vous avez le numéro zéro qui se passe à notre époque dans une Italie défaite, et le Nom de la Rose, et vous avez les autres romans qui se rejoignent, celui du XVIIe siècle, Baudolino, c'est le roman le plus baroque dans son écriture, dans ses listes de poissons, dans ce qui arrive, un naufragé fait naufrage de la Marilis, hein, qui est partie d'Amsterdam, il fait naufrage, et sur le 180e parallèle,
là où on change d'heure,
on change de jour,
à deux jours, de oui, jour. À d'heure et du coup de jour.
Oui, il dit je suis le premier avoir fait naufrage sur un autre bateau, et il monte sur un autre bateau qui paraît vide, et en fin de compte, il y a un moine, Caspar, un moine allemand, avec qui il apprendra beaucoup de choses. Mais on a comme ça des correspondances merveilleuses entre... Bon, j'ai tout reparcouru avant
donc
de venir chez vous.
Donc il n'y a qu'un seul sujet, alors, c'est ça
oui,
que vous
c'est
dites.
Un, il a fait un seul roman. Il a fait un seul roman, et ce roman, c'est le roman de notre époque. Quelle que soit l'époque qu'il regarde, on a un portrait de notre époque.
Mais à chaque fois, il a voulu quand même prendre de la distance, parce qu'au départ, on comprend qu'il s'intéresse au Moyen-Âge, qui est son époque de prédilection, mais après il va s'intéresser au 19e et au 17e.
Des Trois Mousquetaires, et l'époque, etc. Et il arrive 19e, bien sûr, hein, avec les protocoles de Sion, etc. Les protocoles de Sion, dont il parlait déjà, dans le Pendule de Foucault. Et c'est quelque chose qu'il a suffisamment tourné tourmenté jusqu'à la fin ce complot, ces mensonges, tout ce qui fait que on vit dans une fable dangereuse dont il faut connaître les signes. Et le sémioticien entre ici pour avoir vraiment un éclairage sur notre vie.
Donc, c'est un roman bibliothèque, Le Nom de la Rose. On a parlé de la bibliothèque qui brûle. Et puis aussi, c'est un roman bibliothèque parce que c'est un roman qui est imprégné de toutes les lectures qu'a faites Umberto Eco.
Exactement, mais entre autres choses, c'est aussi, ces romans s'inscrivent dans cette bibliothèque. On dirait que la bibliothèque du départ contient déjà, sur le point de se lever, tous les romans d'Umberto Eco.
D'ailleurs, il a dit lui que celui qui ne lisait pas ne vivait que sa vie, alors que celui qui lit peut
qui ne
lire
lit pas,
5000 vies.
Je vais vous dire exactement, qui ne lit pas à 70 ans n'aura vécu qu'une vie, la sienne. Qui lit aura vécu 5000 ans. Il était là quand Caïn a tué Abel, quand Jean Valjean a pris Cosette par la main, quand l'aube se levait pour Victor Hugo. Parce que la lecture, c'est une immortalité à l'envers.
I was five and he was six. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down.
Tout à l'heure, dans sa chronique, Pierre Cros nous parlait de la littérature de genre. Est-ce que pour vous, Jean-Noël Schifano, on est dans la littérature de genre avec Umberto Eco? Est-ce qu'en particulier, on peut dire que Le Nom de la Rose reprend les codes du polar? Est-ce qu'on peut dire que Le Nom de la Rose est totalement un polar?
Oui, oui, c'est une enquête, un roman policier. Il y a des morts à chaque chapitre. Et un moine mène l'enquête, oui, et d'où le choix peut-être de Jean-Jacques Hano, James Bond, quoi.
Alors justement, il y a dans ce livre, et c'est là où peut-être que Umberto Eco est vraiment un homme bibliothèque, il y a dans ce livre tout un tas de clins d'œil à d'autres polars qu'il a lus et qu'il a aimés, à d'autres auteurs aussi de polars.
Oui, mais de toute façon, Umberto Eco disait qu'il n'y avait pas un mot de lui dans Le Nom de la Rose. Donc c'est un livre de citations, de situations, de citations toutes crues qui sont intégrées dans le roman. Mais il a procédé ainsi quasiment pour tous ses livres. Oui.
Pas un mot de lui dans Le Nom de la Rose.
Oui.
Je vous propose d'écouter ce que disait Umberto Eco de son quotidien et notamment de la charge de travail qui était évidemment très importante pour lui.
Je passe ma vie en disant, zut alors, pourquoi j'ai pris cet engagement, je dois finir pour minuit cet article demain matin, partir à 6 heures. Si j'avais dit non, je resterais tranquille, mais le jour après, je vais commettre la même faute, je prends un autre engagement. Et lorsque, par hasard, je m'aperçois que c'est 3-4 jours que je suis chez moi, je commence à me sentir que quelque chose qui se remue dans mes entrailles, et j'ai besoin de... Une fois, un ami m'a dit, chaque fois que je sens un avion sous mon cul, je sens le sens de la liberté. Cette sensation de l'avion qui commence à partir, vous avez une pression qui vous dit que vous êtes en l'air. Et vous avez la sensation que vous avez détaché tous les contacts. pour un moment, vous êtes ailleurs. Et peut-être on a besoin de ça. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses.
On fait beaucoup de choses, Jean-Noël Schifano, finalement, c'est pour s'offrir de la liberté. Quand on entend, et notamment quand on entendait ses archives...
S'offrir des livres, hein, parce qu'il a, dans sa bibliothèque, il avait des livres, il le dit lui-même, qui valaient 2 Maserati. Un seul livre. Donc, il lui fallait aussi beaucoup d'argent pour avoir une bibliothèque d'antiquaires, quasiment. Hein, des livres de tous les siècles, en commençant par les premiers, où il y avait de l'écriture. Donc c'était très important pour lui. Et il avait une générosité de lui-même. Il s'est donné. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui se donnait. Quand il faisait une conférence, j'en ai fait... j'étais à côté de lui quand on parlait ensemble de notre siècle, qui serait le siècle de la traduction. Car il fallait que les langues... Il donnait en exemple la Suisse, où on vivait avec 3 ou 4 langues. Et ce qu'il fallait pas, c'est qu'il y ait une langue unique, au contraire. Mais qu'il fallait que les langues se développent. Et c'était une générosité de langage. Et après la conférence, il discutait avec tout le monde. Et après, il riait. Et après, il racontait des blagues. Moi, de Écho, j'ai le souvenir d'un rire continu. Et en même temps, entre deux rires, un esprit aigu qui démontait la réalité.
C'est vrai que quand on écoute les archives, il arrive fréquemment que les journalistes lui posent la même question. Et il y répond comme si c'était vraiment la première fois qu'on lui posait cette question. Et on sent... En effet, cette générosité qui, du coup, vous le dites, lui ressemblait beaucoup.
Ah oui, c'est rond. Il était rond. Il avait un esprit aigu et il était rond. Et il aimait manger comme ses personnages. Il aimait comme le personnage de l'affreux du cimetière de Prague qui dit « Moi, j'aime mieux saliver qu'avoir une érection ». Je dis pas que c'était Umberto Eco, mais il avait ce goût de la nourriture, le goût et vers la fin de sa vie, il était obligé de se limiter. Et je pense que ça a été aussi, c'était un peu pour lui un peu triste ça. Mais autrement, c'était un Pantagruel.
Quand il se retournait sur son œuvre, Jean-Noël Schifano, il aimait dire que son roman le plus réussi était Le Pendule de Foucault. Est-ce que vous-même, vous avez, pour avoir traduit tous ces livres, le sentiment que dans Le Pendule de Foucault, il y a quelque chose qui est encore plus réussi que dans les autres romans ?
Oui, c'est un roman qui est... je comprends pourquoi, parce qu'il y a une construction... la construction de ces romans... On peut dire ce qu'on veut, qu'on aime, qu'on n'aime pas, mais les constructions, et un roman c'est d'abord une construction, sont admirables. Il construit d'une façon. Et Le Pendule de Foucault, jouant sur le vrai, le faux, les différentes époques et toutes les sociétés secrètes, il reparcourt le monde et tout l'obscur. Il dit, je suis un personnage, dit, je suis dans la ville lumière pour rencontrer les obscurs. Et donc, on a tous ces contrastes. Et c'est un vrai réalisme baroque parce que la réalité est là, mais le fait qu'on circule à travers toutes les époques, à travers toutes les croyances, à travers tous les complots aussi. Le Pendule de Foucault, qui s'agite sous notre nez, hein, à Paris, est quelque chose qu'il a réussi particulièrement. Et puis, il adorait Paris. Et cette circulation parisienne jusqu'à sa colline, parce que le narrateur est sur la colline, ses collines d'enfance, hein, du Piémont, et raconte en attendant les assassins. Et il dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on s'est trompé? Pourquoi? C'est quasiment pourquoi, à cause d'une liste de courses, je vais être assassiné, quoi.
Il adorait Paris, promener dans Paris. Et ce qui est très amusant, c'est qu'il prenait un dictaphone et qu'il parlait dans son dictaphone tout en se promenant d'un point à un autre pour savoir combien de phrases on pouvait prononcer entre, mettons, la place Saint-Sulpice et la Seine, parce qu'il voulait, après, dans ses romans, faire à ses personnages ce même trajet.
Oui, c'est place Maubert, puisque son personnage d'antiquaire, là, qui fait du trafic de sty, etc., et qui est surtout un grand faussaire, avait sa boutique place Maubert.
Et il y avait ce besoin de précision.
Bien sûr, de réalisme total. Ce qui lui permettait, sur cette base réaliste, de recréer les complots.
Merci beaucoup Jean-Noël Schifano.
Mais je vous en prie, merci à vous.
Comme chaque jour, je vous propose de terminer cette émission en écoutant un peu de poésie avec Jacques Bonafé.
C'est bizarre, je ne vous reconnais pas. Tant il fait nuit, je ne vois plus votre visage. En dépit de vos yeux, de cette lumière, de diverses couleurs, si loin là-bas. Ces mots, ces derniers mots d'Yves Bonnefoy, disparu le 1er juillet, nous sont adressés dans Ensemble, encore paru au Mercure de France. Je comprends que vous tous, vous n'êtes plus auprès de moi qu'une seule présence à qui tendre la coupe, je ne sais ni ne le veux. Je la pose un instant, apercevant vos mains, je les touche des miennes, c'est suffisance. Car c'est vrai que rien n'est réel de cette salle où nous sommes ensemble, vous et nous. A-t-elle des cloisons? Elle s'efface dès que je m'en approche. Je ne sais si c'est dedans, dehors, cette nuit claire. Je prends la coupe, je l'élève, elle n'est plus. Et que contenait-elle? Ai-je su jamais? Cela semblait réel, ce l'était peut-être, disons, ce fut un vin que nous avions désir de boire ensemble. Quelques pages plus loin. Mes proches, je vous lègue la certitude inquiète dont j'ai vécu, cette eau sombre trouée des reflets d'un or, car oui, tout ne fut pas un rêve, n'est-ce pas? Mon ami, nous unîmes bien nos mains confiantes, nous avons bien dormi, de vrais sommeils, et le soir, ça avait bien été, ces deux nuées qui s'étreignaient en paix dans le ciel clair. Le ciel est beau, le soir, c'est à cause de nous. Reprise de ce premier texte, je me souviens, mais qu'est-ce ce souvenir? Rapide l'évasement du rien dans le sablier, la mémoire et ce puits, alentour l'été, la garrigue est déserte, je suis là. Je lève le couvercle de fer rouillé, de l'eau d'un autre ciel. Je me penche, c'est toi. Le sourire de tant d'années dans cette nuit. Que voulions-nous? Seulement préserver du sens aux mots. C'était eux notre coupe, le langage. Je la lève pour vous et avec vous. Est-ce nos voix ce désordre d'écho sous une voûte sombre, puis ce silence? Des inconnus ont forcé notre porte, ils passent comme un vent à travers nous. Notre salle s'emplit et se désemplit. Si intense que soit le sentiment d'un monde perdu, nous dit Jean Starobinski dans sa préface, Bonnefoy ne laisse pas prévaloir le regard rétrospectif, la pensée nostalgique. Maintes fois, certes, il laisse entendre que dans le passé des cultures humaines, il y eut une alliance sacrée avec la Terre, dont le témoignage a été recueilli par les mythologies. Mais la parole mythique maintenant tarie ne peut renaître semblable à ce qu'elle fut.
Jacques Bonafé qui interprète cette semaine des textes d'Yves Bonnefoy pour clore comme chaque jour la compagnie des auteurs. Encore merci à vous Jean-Noël Schifano pour cette introduction à notre semaine consacrée à Umberto Eco. J'en profite pour signaler la parution récente, c'était en avril dernier, du troisième tome de vos chroniques napolitaines intitulé « Encore un tour autour de la vie ». C'est chez Gallimard. Cette émission peut être réécoutée en podcast ou directement sur le site de France Culture. Vous pouvez également nous rejoindre et réagir sur les réseaux sociaux. Cette émission était réalisée comme chaque jour par Laurence Millet. À la console, il y avait Alexandre Dang. Et à la préparation, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Corinne Amar et Eva Lesseau. Et puis après ce panorama de la vie et de l'œuvre d'Umberto Eco, demain, c'est Paolo Fabbri, qui fut son ami et collègue à l'Université de Bologne, qui nous parlera du professeur et du sémioticien qu'était Eco. Mais tout de suite, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Nicolas Martin et la méthode scientifique.